BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, ça tombe bien, il est midi une, mais d'abord un rappel des principaux titres de l'actualité économique et ce regain de tension au Moyen-Orient qui provoque de nouvelles tensions aussi sur les marchés financiers. L'ensemble des bourses européennes sont dans le rouge, les prix du pétrole repartent à la hausse, le baril de Brent flirte de nouveau avec les 98$ ce midi, le marché obligataire lui aussi se tend à nouveau, la dette de l'État français à 10 ans se rapproche des 3,65% et le 10 ans allemand est repassé au-dessus des 3%. De nouvelles tensions. Après que les États-Unis et l'Iran se sont de nouveau attaqués mutuellement la nuit dernière, chacun accusant l'autre de violer le cessez-le-feu. Si à ce stade, Donald Trump assure que les discussions diplomatiques indirectes se poursuivent, l'un des conseillers du guide suprême iranien promet ce midi, je cite, un déluge de missiles et de drones en cas de nouvelle agression américaine. Et c'est dans ce contexte que l'OCDE annonce une révision à la baisse de ses prévisions pour la croissance mondiale cette année. Si le conflit se prolonge jusqu'à l'an prochain, le PIB ne progressera que de 2,1% en 2026 contre 2,9% prévu au départ. L'impact de la guerre serait de seulement 0,1 point si un accord de paix devait être conclu ces prochaines semaines. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est donc tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'IMO et qui nous concerne, usagers de cet immobilier. Le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Et aujourd'hui, un témoignage intéressant. Comment on peut accélérer la vente d'une maison qui avait du mal à se vendre? Bah, peut-être en étant un peu plus transparent et en sachant véritablement quelle est la note de performance énergétique du logement et quels travaux je vais devoir faire pour que ce bien corresponde à mes envies et mes besoins et mes capacités financières surtout. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour et encore de merveilleux professionnels à mes côtés. On va faire le tour de l'état de ces marchés de l'immobilier. L'ancien, le neuf, les politiques prennent-ils suffisamment de bonnes décisions pour pouvoir permettre à ces secteurs soit de poursuivre dans leur reprise pour l'ancien, soit de se relancer enfin pour le neuf. On verra ça dans quelques instants, mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Manon Delmas, MIF Sud, conseillère immobilier IAD France à Toulouse. Bonjour Manon.
Bonjour Marie, merci pour l'invitation.
Bah non, merci à vous pour votre témoignage. Bon, 6 mois de vente, et j'allais dire finalement c'est pas tant que ça à l'heure actuelle. Alors, mais 6 mois de vente pour une maison, c'était long, c'était long. Et puis d'un coup d'un seul, baguette magique, j'ai envie de dire, ça s'est débloqué. Enfin, baguette magique, c'était quoi la baguette, Manon?
Alors, la baguette magique, ça a été tout simplement, du coup, une reprise en main de ce bien, effectivement, qui ne se vendait pas après 6 mois de commercialisation, 5 visites, 0 offre. Le retour des acquéreurs était sans appel. Ils avaient peur, du coup, de la classification énergétique de la maison. Et donc, la vendeuse m'a contactée pour me demander mon aide. Et donc, bien évidemment, pas de DPE sur la maison, enfin, bien évidemment.
Mais je croyais que c'était obligatoire, les DPE. C'est plus obligatoire, les DPE?
Absolument, vous avez tout à fait raison. Je rappelle aux téléspectateurs qu'effectivement, l'affichage du DPE dans les annonces immobilières est obligatoire depuis le 1er janvier 2022.
Et donc là, il y en avait pas. Bah, donc là, il y en avait pas. Donc en même temps, s'ils n'étaient pas en accord avec la réglementation, ça explique cela. J'imagine que, comme ça, au premier abord, on se disait aussi, non seulement il n'y a pas de diagnostic de performance énergétique, mais j'imagine que la maison, elle paraissait pas être A ou B, c'était pas un logement neuf.
Tout à fait, la maison était plutôt ancienne et donc effectivement les acquéreurs avaient peur de cette classe énergétique. Et donc, malgré tout, il y avait quand même eu de l'amélioration puisqu'on avait eu le changement des menuiseries, par exemple, l'isolation par l'intérieur, la pose d'une pompe à chaleur. Donc, il y avait quand même des éléments qui, malgré l'ancienneté de la maison, permettaient d'avoir une meilleure classification énergétique. Donc, c'est ce qui a été nécessaire de faire, en effet, c'était de contacter un professionnel, un diagnostiqueur, pour établir un diagnostic de performance énergétique.
Et au final, la note, elle est pas si pourri que ça, quoi. Même D, je pense que pour un logement ancien, c'est plutôt une belle performance quand même.
Elle est tout à fait, la note était très correcte et ce qui a permis effectivement d'avoir finalement le carnet de santé énergétique de la maison qui était plutôt correct et en adéquation avec les travaux qui avaient été réalisés, tout à fait.
Et elle s'est vendue du coup, alors vous avez eu des offres, alors j'aime bien l'histoire parce qu'en bien plus évidemment. Voilà, comme c'est ce que disait Jacques Chirac, je crois c'est les emmerdes, ça vole souvent en escadrille, c'est que là en l'occurrence, quand bien même vous aviez eu enfin une offre avec un DPE qui finalement était plus que correct, et ben là encore il y a eu des choses qui sont passées, ça n'a pas été aussi simple que ça.
Alors effectivement, la suite sur cette maison a été que on a eu des super acquéreurs qui étaient ravis d'acheter cette maison, mais on avait donc l'acheteuse qui est sous curatelle, donc ça a été après un accompagnement bancaire qui a été un peu plus complexe, mais il faut savoir bien s'entourer de professionnels, puisque il faut savoir que quand on est sous curatelle, il y a des délais qui sont un petit peu plus longs, notamment sur l'obtention des assurances de prêt.
Mais bon, là, ça y est, elle est vendue. Elle s'est vendue à un bon prix, cette maison.
Elle s'est vendue au prix et elle s'est vendue, en effet, en peu de temps après mon intervention. Un mois et demi après, elle s'est vendue, du coup, grâce à tout cet accompagnement derrière qui était nécessaire.
Mais c'est toujours intéressant. Merci, Manon, pour votre témoignage. C'est toujours intéressant, ces témoignages de vous, professionnels, hein, parce que c'est des histoires de vie derrière toute acquisition immobilière, que ce soit du côté des vendeurs, des acheteurs, de vous, professionnels. Donc, c'est toujours intéressant. Merci, Manon. Manon Delmas, MIF Sud, conseillère immobilière IAD à Toulouse. Si, comme Manon, vous avez des témoignages terrain à nous apporter, des anecdotes, des coups de cœur, des coups de gueule parfois, et ça arrive assez régulièrement, surtout en ce moment, n'hésitez pas à nous écrire lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Quel duo de choc. À ma droite, Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Pascal.
Bonjour Marie.
Et à ma gauche, Loïc Quentin, président de la FNIM. Bonjour Loïc.
Bonjour Marie.
Et vous êtes les meilleurs représentants de vos segments immobiliers respectifs. J'ai envie de dire l'ancien, l'existant. Je me souviens d'un ancien patron de la FNIM qui a vraiment été très attaché au fait qu'on arrête de dire l'ancien, mais bien l'existant et le neuf. Vous êtes dans un état de santé un peu différent tous les deux, mais vous êtes quand même avec un petit fond d'inquiétude, on va pas se mentir. Je vais commencer par Pascal. Le 9, bon, on attend. C'est un peu sereine, ne vois-tu rien venir. On pensait que la reprise allait s'engager. Elle est quand même assez timide aujourd'hui pour la construction neuve.
Oui, on a fait une année 2025 catastrophique, je l'ai déjà dit sur votre antenne. Le premier trimestre 2026, on pensait qu'il allait bien démarrer. On avait le dispositif Jean Brun, je pense qu'on y reviendra.
Bien sûr, ouais.
Et malheureusement, un conflit armé au Moyen-Orient. Et on sait par expérience que dans ces moments-là, il n'y a pas d'investisseurs. Les gens attendent, ne font pas des prêts de long terme. Ils se demandent si les taux d'intérêt ne vont pas monter, ils se demandent ce qui va se passer. Il y a une inquiétude et cette inquiétude n'est pas du tout propice à l'investissement. Donc malgré l'obtention du dispositif Jean Brun, malgré un début de reprise qu'on pensait avoir, vous savez, c'est quand même un petit peu un manque de chance. Le 21 février, on obtient le dispositif Jean Brun. Le 28 février, soit 7 jours plus tard...
L'Amérique déclare la guerre à l'Iran.
Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans l'attentisme. On a des bons atouts, mais il y a un climat général qui fait que ça ne redémarre pas.
Bon, je vous regarde, Loïc, sur l'existant. Le redémarrage, il a quand même un peu eu lieu en 2025, on ne va pas se mentir. Et quand je dis un peu, parfois, moi, je trouvais qu'il y avait une forme de timidité chez certains acteurs de l'immobilier ancien de me dire, oh, soit, quand même, 900, c'était quoi, 950 000 ventes l'année dernière?
On a terminé à 952 000 ventes. Ouais. 12% de croissance, on avait projeté 11% en janvier 2025, vous voyez, sur l'année 2025.
Sacrément fort.
Tout à fait, mais on ne se trompe pas forcément dans les prévisions. Et je peux peut-être vous en dire d'autres maintenant. Aujourd'hui, qu'en est-il sur l'année 2026, puisque c'est la question posée. Ouais. 2026 nous inquiète, comme Pascal, c'est une situation qui est très inquiétante pour plusieurs raisons. On a bien démarré l'année, on avait pronostiqué 3 à 5% en janvier 2026, avant que la guerre au Moyen-Orient, la crise, ne soit révélée. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les derniers chiffres d'avril, en actes signés, on était à fini 2025 à 952 000 transactions, nous terminons avril à 940 000.
Donc ça commence déjà à baisser, quoi.
Ça a déjà baissé. Alors même si d'année en année, ils ne sont pas comparables, parce qu'il y a eu un mois d'avril l'an dernier qui était exceptionnel.
Ouais, bien sûr.
On peut avoir aussi un rattrapage en mai, mais néanmoins, la tendance est de fond. J'avais dit récemment, il y a un mois, j'ai dit un marché convalescent au bord de la rechute. Et pourquoi au bord de la rechute ? C'est provoqué, cette rechute, elle est provoquée principalement par la crise au Moyen-Orient, par une inflation qui est au rendez-vous et qui est de retour. 2,5% d'inflation. Aujourd'hui, nous avions que 0,3% en janvier.
Ouais, bien sûr.
Les annonces de la Banque Centrale Européenne.
La semaine prochaine, le 11 juin. Ouais.
Le 11 juin, il y a fort à croire que dans tous les cas, le taux de la BCE va remonter, ce qui va immédiatement et mécaniquement entraîner un relèvement des taux des prêts consentis aux particuliers en matière immobilière. Donc c'est ça qui nous inquiète, et notamment puisque...
Et il y a un aspect psychologique aussi pour les acheteurs, c'est-à-dire que quand bien même la hausse dont on parle assez régulièrement à l'antenne des experts de l'IMO et de BFM Business, elle est quand même assez modeste à ce stade sur nos crédits immobiliers. Et pour autant, psychologiquement, on sent qu'il se passe quelque chose chez les acheteurs potentiels de dire « Oula !»
Il y a aussi une crainte, je dirais, un manque de visibilité sur l'avenir politique de la France. Il y aura dans un an, nous aurons un nouveau président de la République, une nouvelle Assemblée nationale constituée,
ouais,
de nouveaux groupes parlementaires et un nouveau ministre du Logement. Et on repart. Et là, c'est l'inconnu la plus totale. Comment le logement va être traité dans la période à venir?
On est d'accord, mais déjà on va rester sur effectivement, Loïc, vous mettez le point sur quand même ce qui est l'alpha et l'oméga de vos marchés respectifs, ce sont les conditions de financement des acheteurs. Donc là aujourd'hui effectivement on voit que nos taux d'intérêt ils ont plutôt une tendance haussière. Je le dis d'un mot quand même, mais il y a des opérations pour celles et ceux qui souhaiteraient acheter un bien immobilier ancien ou neuf d'ailleurs, hein, il y a des opérations de certaines banques en ce moment qui mettent tout sur la table pour engranger de nouveaux dossiers avant qu'il ne soit trop tard. Allez regarder quand même, parlez-en à vos courtiers,
vos banquiers. Il faut en profiter, à 3,25 voilà, c'est pas cher.
C'est ça, il y a une offre à 3,10 là sur 20 ans, tout profil confondu dans une grande banque nationale. Je crois que ça vaut le coup. Ouais. Je pense que les banques, ouais, jettent leur dernière force dans la bataille avant qu'elles ne puissent plus.
Non mais c'est même pas ça, Marie. Moi, je vois régulièrement, on dit les banques ne veulent pas prêter. C'est faux. Mais c'est vraiment faux.
Alors en ce moment, c'est vraiment
moi, je vois
pas
régulièrement
le cas, ouais, ouais.
Les patrons de ces banques qui me disent, mais c'est notre cœur, le prêt immobilier, parce que les gens empruntent sur 15 ou 20 ans, et donc on fidélise un client avec un prêt sur 15 ans ou 20
ouais,
ans,
bien sûr.
Et après, ils ont d'autres produits à proposer, donc ils ont vraiment envie. Alors, il y a effectivement cette montée, comme vient de dire très justement Loïc, des taux d'intérêt, et puis aussi les critères du HCSF.
Le Haut Conseil pour la stabilité financière.
Oui, qui sont beaucoup trop rigoureux. Les banques elles-mêmes me le disent. On nous protège de bêtises qu'on va pas commettre. C'est ça que me disent les banques. Et donc, sur le reste à vivre, etc., sur les fameux pourcentages d'endettement.
Puis on va avoir le sujet du fameux taux d'usure aussi qui va se poser là-haut.
Taux d'usure, s'il y a un peu d'inflation, ça va se remonter. Donc, il faut peut-être libéraliser de ce côté-là. On fait beaucoup, nous, de pression pour qu'on nous entende. Les banques nous disent, mais attendez, on n'a pas de défaillance, on a envie de prêter. Mais les conditions de la réglementation européenne avec les transpositions de la norme en France fait que, des fois, on peut prêter à Madame Dupont et on peut juridiquement pas.
Ouais, bien
donc
sûr.
Ça, c'est un vrai sujet, mais elles sont
prêteuses. Mais pas quand même sur le crédit immo et sur le logement neuf. Enfin, non seulement, effectivement, je le disais, les taux, ils sont pas si élevés que ça historiquement. Parce que je vois tous les autres, les gens sur, vous regardez sur les réseaux sociaux et qui entendent parler de taux à 3,5%. Oh mon Dieu, moi j'ai emprunté à 1%. Ouais, enfin les gars, vous êtes assez peu nombreux finalement historiquement. On est sur des taux quand même qui sont relativement faibles.
Moi,
les
j'ai
taux
connu
à
des taux à 17%. Ouais,
voilà, bah, regardez, écoutez.
17%.
1998,
ouais. Voilà. C'était une période où François Mitterrand disait les Français gagnent de l'argent en dormant parce qu'on avait des rémunérations de compte à terme à 15 points.
Ah bah oui, là pour le coup, et effectivement, voilà. En parallèle, on avait, ouais, bah j'imagine, et puis le livret A de l'époque, wouhou. Mais juste quand même, sur le logement neuf, au-delà de nos taux de marché, on a aussi tout un tas de prêts bonifiés qui concernent spécifiquement l'achat d'un logement neuf parce qu'ultra performant. On a le prêt à taux zéro de l'État, mais on a aussi des prêts spécifiques à 0% d'intérêt de la part des banques elles-mêmes. J'ai du mal à comprendre comment, finalement, ce financement qui est finalement vraiment agréable en ce moment pour acheter un logement neuf ne puisse pas aller dans votre sens de commercialisation de logement neuf. Je regardais vos derniers chiffres à la Fédé. Un quart de projets annulés.
Oui, 24%, presque un quart.
C'est quand même dingue.
Alors qu'en temps normal, c'est négligeable, c'est entre 2 et 3%, peut-être 3,5%. Et on a aujourd'hui... Vous savez, le problème, nous, pour démarrer une opération, il faut qu'on ait un taux de réservation, ce qu'on appelle le quota pour démarrer les travaux. C'est ce que nous demandent nos banques. Et quelquefois, on n'arrive jamais à l'obtenir. Donc les premiers clients se désistent en disant, attendez, j'ai réservé il y a un an, je suis toujours pas, je vois que ça démarre toujours pas, je peux plus attendre. Et donc, effectivement, on a actuellement 24% des projets lancés par les opérateurs promoteurs immobiliers qui ne vont pas au bout. Ça veut quand même dire que les trois quarts vont au bout, mais on doit arrêter des projets qui n'ont pas encore techniquement démarré.
Mais ma question, Pascal, c'est pourquoi ?
Je vous l'ai dit, il y a pas de confiance. J'ai beaucoup pesté sur les conditions que nous imposait le gouvernement ou les non-conditions, l'arrêt du Pinel, etc., etc. Aujourd'hui, je le redis sur votre antenne, on a été entendu avec le dispositif Jeanbrun, on a eu le prêt à taux zéro pour les maisons individuelles, on a eu l'amendement pour lequel je m'étais beaucoup battu des donations, qui est toujours en vigueur jusqu'au 31 décembre. Tout ça va dans le bon sens et on a une volonté, je ressens une volonté gouvernementale de nous aider. J'en ai parlé d'ailleurs il y a une quinzaine de jours avec le président Macron qui avait compris, qui m'a dit oui, effectivement, ils ont fait pas un mea culpa, mais ils sont allés trop loin pour nous embêter. Bon, aujourd'hui, ils veulent nous aider, ils sont plus majoritaires. C'est déjà un peu plus compliqué. Quand ils voulaient nous embêter, ils étaient majoritaires. Aujourd'hui, ils veulent, mais ils sont plus majoritaires. Mais il y a ce que Loïc a décrit, ce que j'ai décrit il y a quelques instants. Il y a en France une espèce d'inquiétude, une angoisse internationale également, qui fait que les gens ne sont pas prêts à faire des investissements de long terme. C'est ça qu'on ressent aujourd'hui.
Donc c'est plus psychologique,
psychologique, et aussi, il y a quand même un gros problème, c'est que les Français n'ont plus confiance dans l'investissement immobilier, dans l'investissement locatif.
Et vous faites la bonne pirouette, là, pour le coup, parce qu'on va parler du Jeanbrun, parce qu'effectivement, il a été quand même, dès le départ, plutôt favorable. Franchement, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que je pense qu'encore, il y a des améliorations possibles sur
favorable
le Jeanbrun dans
le neuf. Mais pour l'existant.
Mais pour l'existant, c'est quand même cataclysmique.
Il y a le projet de loi qui va être présenté, qui a été présenté par le ministre, et là, qui contribue, finalement, à réguler et
corriger le tir,
et notamment avec un dispositif qui est sensiblement à peu près identique au marché du neuf. Mais la question qui se pose, c'est que les Français n'ont plus confiance. Il faut restaurer cette confiance des investisseurs. Comment auraient-ils confiance aujourd'hui ? D'abord, les taux de rendement sont trop faibles. Le rendement de l'immobilier n'est pas assez élevé par rapport, je dirais, à la pression fiscale, par rapport aux
obligations. C'est ce que j'allais dire. À cause de quoi, Loïc ? C'est quoi ? C'est la fiscalité ? Ce sont les prix qui ont trop augmenté au moment où nos taux étaient à 1%.
C'est l'ensemble et toutes les annonces aussi, je dirais, les nouvelles réglementations qui s'appliquent aux propriétaires.
La réglementation environnementale, par exemple.
Quand on voit que l'encadrement des loyers, ça fait 12 ans et on va y venir, parce que c'est vrai que c'est ce sujet qui vous tient à cœur, mon cher Marie. Hein, donc là, l'encadrement des loyers, on continue encore à parler d'un dispositif qui n'a pas montré son efficacité, mais qui est un véritable épouvantail.
Mais il n'a pas montré non plus son inefficacité.
L'impôt sur la fortune immobilière qui a été effectivement recréé par Emmanuel Macron, aussi, c'est un épouvantail. Il y a des Français qui ne veulent pas investir dans l'immobilier. Toutes les normes, toutes les obligations, les réglementations, les diagnostics qu'on doit annoncer un contrat, les impayés, etc. Tout sous les risques que prend un propriétaire bailleur.
Encore une fois, je vais boucler la boucle sur l'aspect psychologique, mais est-ce qu'il n'y a pas un aspect plus psychologique qu'autre chose ? Encore une fois, l'encadrement des loyers, à Paris, les loyers n'ont pas baissé depuis la mise en place de l'encadrement des loyers, ils ont juste augmenté un peu moins fort qu'ailleurs. Les impayés de loyers, ils plafonnent à un taux qui est historiquement élevé, mais qui est de 3%.
Mais Marie, on n'a pas besoin d'un encadrement, il y a déjà un encadrement naturel dans tous les loyers sur les zones tendues, où l'augmentation est plafonnée à la seule variation
de l'indice réel. Il était aussi
introduit dans la loi. C'est 48% du marché locatif en France qui est classé en zone tendue, qui a déjà une limitation à l'augmentation au moment de la sortie du locataire.
À la relocation. Mais ça veut dire que quelqu'un qui viendrait investir n'aurait plus
chère Marie, si l'encadrement des loyers avait été efficace, mais Paris n'aurait pas perdu et ne perdrait pas 1000 habitants par mois.
Oui, mais alors pourquoi une ville comme an. Non, mais parce qu'à chaque fois on me donne l'état du marché locatif parisien et je l'entends, il est déplorable et je suis bien placée pour le savoir.
700 logements par mois se libèrent.
Mais ma question c'est pourquoi l'état du marché locatif au niveau national et dans d'autres villes qui n'ont pas l'encadrement des loyers se détériore tout autant.
Pour deux facteurs principaux. Vous prenez la part des logements meublés à Paris est passée de 13 à 29% en 14 ans. Toutes les grandes villes de France ont vu effectivement cette érosion. On a accordé plus d'avantages fiscaux à la location meublée qu'à la location nue qui est faite pour notamment...
Donc c'est plutôt un vrai choc fiscal. L'encadrement des loyers a bon dos quand même. Il y a une vraie réalité fiscale sur l'investissement locatif en France. Et d'ailleurs, d'où la bataille du neuf pour récupérer un dispositif attractif quand même.
Oui, parce que on se rend compte que s'il n'y a pas de dispositif attractif, il n'y a pas de modèle économique. Donc, on peut me faire toutes les simulations qu'on veut, on peut me faire toutes les études. Nous, on se rend compte, et ça existe depuis la loi Mennery, 86, 1940 ans, dès que le dispositif fiscal s'arrête, patatrac, les chiffres se cassent la figure. Ouais. Je vais vous donner encore mes chiffres, je les ai par cœur. Une année normale, on fait 61, 62 000 ventes
aux
investisseurs privés, l'année dernière, sans dispositif, 9 468 versus 61 62 000. Donc, Loïc a donné un sujet tout à l'heure. On parle de l'impôt sur la fortune. Alors qu'on soit pour ou contre l'ISF, très bien. Mais quand on dit on supprime l'ISF pour mettre que sur l'immobilier, moi j'ai beaucoup de clients, de gens qui me disent mais j'ai plus envie d'avoir l'immobilier, je préfère mettre ça en assurance vie, en liquide, sur la bourse, etc.
Plutôt. Ce qui est dommage, parce qu'il y a un rôle social
dans l'investissement. Pourquoi on a puni l'immobilier? Pour une raison simple, c'est que avec votre compte en banque, vous pouvez le délocaliser. Votre appartement, partir à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout ça, on a plafonné les loyers, on peut être pour ou contre, mais nous on sait que ça retire des logements du marché. On a donné plus de droits à des locataires, aujourd'hui les propriétaires nous disent « moi je suis pas dans le débat, je constate ». Et aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt à investir s'il n'y a pas un dispositif fiscal qui compense. Et ça, messieurs Lecornu et Jeanbrun l'ont bien compris. La preuve, on arrête le dispositif, patatrac. Donc il faut retrouver un équilibre, il faut que les rapports locataires propriétaire se rééquilibre un peu en faveur des propriétaires. Faut pas avoir peur de le dire. On a trop protégé.
Il y a des villes où il faut que ce soit à l'avantage un peu plus des propriétaires. Il y en a d'autres où je pense que c'est les spécificités territoriales de la France et on peut difficilement dire que dans les villes ultra tendues, ce soit les locataires qui aient la main, hein, quand même.
Mais c'est pas une question.
Si on veut équilibrer les rapports.
Vrai, Marie. Dans ces villes-là, les gens nous disent de toute façon, si j'ai pas ma rentabilité, je vais payer ceci, je vais payer de l'impôt sur la fortune, je vais payer une taxe foncière. Il y a des endroits où la taxe foncière correspond à 3 mois et demi de loyer.
Ouais, je suis d'accord. C'est pas le cas de Paris, par exemple.
3 mois et demi. Mais je parle pas de Paris, je vous parle.
Non, mais c'est pour ça que je parle de ville tendue versus ville moins tendue.
Vous avez de l'impôt sur vos revenus. Il suffit qu'un locataire paye pas bien ou qu'il y ait des gros travaux qui soient votés dans la copropriété pour que vous ayez des rentabilités négatives. Nous, on entend les gens qui nous disent ça n'a pas d'intérêt. Donc, ils viennent dans le neuf. Parce que le neuf, il n'y a pas de travaux pendant 15-20 ans. Et puis, il y a un avantage fiscal. Mais ils ne viennent pas dans ils ne viennent plus dans l'ancien. Et on voit ce qui se passe. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. D'ailleurs, il y a des programmes politiques que je suis en train de lire où, pour la première fois, parce que les dernières élections présidentielles, le logement était un peu le grand oublié. On l'a dit suffisamment. Là, j'ai l'impression que c'est un sujet majeur. Et j'en profite d'être sur votre antenne pour interpeller les politiques et les candidats. J'ai commencé à lire des programmes qui vont dans le sens de rééquilibrer parce qu'on est allé trop loin. Et quand on va trop loin, le marché s'est arrêté.
Appel aussi, de votre côté, Loïc, nos futurs candidats à l'élection présidentielle, de se dire le logement doit être au cœur des débats.
On a cessé de le dire. De toute façon, ça fait 3 ans qu'on ne cesse d'interpeller tous les politiques, les 11 groupes parlementaires, tous les ministres successifs, comme quoi le logement est une urgence. Moi, j'ai dit la crise de l'immobilier derrière nous, la crise de logement est devant nous. Ouais. Et là, on va vers la crise. On n'est pas encore dans la crise du logement. Donc, dans tous les cas, c'est la vraie question. Comment allons-nous nous sortir de cette situation? Parce qu'on est une situation de crise inédite au moment où l'État n'a plus les moyens de conduire et d'adopter une politique. Aujourd'hui, les budgets, et on va le voir au moment du projet de loi de finances
pour l'année prochaine,
ça va être encore un grand débat parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et pourtant, il faut sauver le logement. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est vrai que dans tous les cas, si on continue à exercer une pression fiscale sur le logement, il y a de moins en moins d'investisseurs. Vous parliez de Paris. Paris, ce n'est pas 3 mois, mais à Paris, avant, c'était 1 mois. Anne Hidalgo l'a passé à 2 mois maintenant. Dans tous les cas, c'est 2 mois de loyer avec 50% d'augmentation de la taxe foncière une année. Donc, tout ça, c'est une pression sur les propriétaires, et la pression, elle est telle que dans tous les cas, le rendement diminue. Investir aujourd'hui dans le neuf ou dans l'existant, c'est un taux de rendement qui, très souvent, est inférieur au taux de rendement qu'on peut dégager sur des obligations ou les marchés financiers.
Qui plus est, à l'heure inflationniste qu'on connaît aujourd'hui. D'un mot quand même, messieurs, parce qu'il nous reste que 4 minutes, il faudrait que l'émission dure 2 heures avec vous.
À chaque fois, c'est la même chose.
Mais oui, mais je sais, le temps passe vite quand on discute intelligemment. Juste, vous parliez quand même de ces sujets environnementaux, parce que c'est un vrai sujet pour vos deux métiers respectifs, j'ai envie de dire. Il y a les enjeux de rénovation énergétique de votre côté. Il y a les enjeux aussi des coûts de construction. Je pense à ça parce qu'effectivement, vous construisez ultra performant, mais dans ce climat inflationniste, est-ce qu'il y a une espèce d'ombre de plus en plus menaçante des promoteurs qui se sont engagés dans la construction d'un immeuble et qui vont voir les coûts augmenter et qui pourraient peut-être stopper, se retrouver dans une situation parfois dramatique au niveau de l'entreprise, des surcoûts derrière in fine pour ceux qui achètent? Comment ça se passe en fait?
C'est le danger. C'est effectivement le danger, puisque aujourd'hui, avec ce conflit, on n'a pas encore vu réellement les prix monter, mais on sait que c'est en train.
Ouais.
Donc, on vous a vendu un appartement aujourd'hui sur un prix d'un marché estimé, et peut-être que quand on va ouvrir les plis, on ne va pas avoir la faisabilité technique, donc peut-être qu'on abandonnera l'opération, parce que, ou qu'on ira voir les clients en disant, écoutez, voilà les prix tels qu'ils sont, on n'y arrive pas, sauf si vous acceptez un surcoût, ou sinon... Oui, c'est un véritable problème. Vous savez, les promoteurs n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre.
Et de marge tout court.
Ben, moi, j'ai déjà dit sur votre plateau, je peux le redire, ouais. La moyenne des marges d'un prompteur, c'est 5%. Le coût de construction, c'est 50%. Ben, si le coût de construction dérape de 10% et ça va vite 10%, on a déjà mangé toute notre marge. Donc, si le coût de construction dérape de 15-20%, ouais. On est en marge négative. Donc, soit les clients acceptent une augmentation de prix, soit on voit le projet, soit on arrête.
Donc, c'est quand même un vrai risque, là, aujourd'hui.
Ben oui, mais beaucoup ont cru, hein, chez les politiques, qu'on avait des marges. On n'annonçait pas nos marges. Moi, maintenant, depuis tant que j'ai pris la présidence de cette fédération, je le dis, nos marges, c'est 5%. C'est, voilà. Et donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre.
Mais donc, même chose sur l'ancien, enfin, j'ai envie de dire.
Ben, sur l'existant, nous, sur les travaux, bien évidemment, que une inflation sur les matériaux va impacter directement les grands chantiers de rénovation énergétique. C'est la même préoccupation que l'on a. Quand on parle de la rénovation énergétique aujourd'hui, l'urgence, on a toujours dit que le calendrier n'était pas tenable. Et il ne sera pas tenu. Et on a persisté dans le dogmatisme et dans l'idéologie. La réalité, c'est qu'au 1er janvier 2028, on a à nouveau 540 000 passoires thermiques, logements classés F, qui vont sortir du parc locatif parce que considérés comme indécents. L'urgence, elle n'est pas sur une vision dogmatique et idéologique de la politique du logement. L'urgence, elle à maintenir des logements existants, qu'ils soient F ou G, qu'on le veuille ou non. Dans tous les cas, il faut d'abord loger les Français et avoir un choc d'offres, ce qui n'est pas le cas encore dans ce pays. Le gouvernement a enfin compris. Merci à Vincent Jeanbrun et Sébastien Lecornu d'accompagner nos fédérations dans ce sens-là. Nous n'avons jamais été autant écoutés. Voilà, finalement, dommage.
Depuis deux mandats, vous voulez dire.
Depuis deux mandats. Voilà, mais il n'est jamais trop tard, mais il est quand même un peu tard pour redresser la situation dans laquelle nous sommes et de façon rapide.
Et on le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, messieurs, encore une fois, les conditions de crédit sont pas aussi terribles qu'on veut bien vous
le dire. Il faut y aller, c'est
voilà.
Encore,
et par
c'est
contre,
encore
un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, parce que vraiment, on vous conseille vraiment fortement, si vous avez un projet dans les stand-by, là où vous disiez, oh, ça peut peut-être attendre deux ou trois mois, peut-être pas. Si c'était pas pour tout de suite, évidemment, il y a
c'est
pas d'urgence à faire une
bêtise,
mais si c'était quand même incessamment sous peu, allez-y quand même. Et regardez ce qu'on fait aussi dans l'ancien, dans l'existant et dans le neuf. Vous allez voir, il y a plein de jolies choses à acheter. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur
Merci
le plateau.
Marie.
Pascal Boulanger, le patron de la Fédé des promoteurs immobiliers, et Loïc Quentin, le patron de la FNAIM. Les experts de l'IMO reviennent demain pour un nouvel épisode.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.